Amis auditeurs, bienvenue à vous tous pour notre émission Lire et méditer de ce jour. Pour cette semaine, j'ai choisi de revenir sur un père de l'Église dont on ne fait plus la réputation, un père de l'Église qui commente en fait un épître de Saint Jean. Il s'agit de Saint Augustin. Saint Augustin fait un merveilleux commentaire sur la première épître de Saint Jean. Et vous pouvez retrouver ça dans un petit livre de poche aux éditions du Cerf, intitulé « Il n'y a qu'un amour » de Saint Augustin. Dès qu'il se trouve amené à parler de l'amour de Dieu et de la charité fraternelle, Saint Augustin, on le sait, se surpasse. Et son commentaire de la première épître de Saint Jean compte parmi ses chefs-d'œuvre, car l'amour fraternel en constitue le thème majeur. Dans ce petit ouvrage, on ne trouvera que, enfin, que ce n'est pas restrictif, mais ne sera retenu, si vous préférez, que le commentaire d'Augustin, dans ce commentaire d'Augustin, que les développements qui concernent directement l'amour fraternel. Et vous allez voir comme le texte devient accessible. Eh bien, on ne saurait trouver de meilleur guide pour entrer au cœur de l'Évangile. Donc, pour une meilleure lecture de l'Évangile, dans ce commentaire de la première épître de Saint Jean, nous allons donc ensemble découvrir, bien évidemment, ce que nous dit Saint Augustin. Dans la première épître de Saint Jean, je vous le rappelle, je vous en donne un petit aperçu, mais dans le livre, bien évidemment, seront cités les différents passages et moments que Augustin commente. C'est donc, vous savez, comme un autre prologue, en quelque sorte, dans cette première lettre qui commence par « ceux qui étaient depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché du verbe de vie, nous vous l'annonçons, la vie s'est manifestée ». Et ensuite, c'est bien sûr le message de cette lumière qui s'est révélée. Et ensuite, Saint Jean, dans cette attitude très paternelle également, qui va dire « mes petits-enfants, je vous écris cela ». Pour que vous évitiez de pécher, et il va parler de l'amour fraternel, de l'amour de Dieu et de ce que nous devons vivre. Donc je vous propose tout de suite de découvrir ce que nous dit Saint Augustin et je vous propose son prologue. Il y a donc 10 traités que nous livre ce petit fascicule. Vous vous rappelez, dit Augustin, que nous commentons d'habitude l'évangile de Saint Jean au fur et à mesure que s'en poursuit la lecture. Mais voici qu'entre-temps surviennent les solennités pascales, au cours desquelles il est d'usage dans l'Église de lire certains textes de l'évangile, les mêmes chaque année, sans qu'il soit possible d'en substituer d'autres. La suite du commentaire que nous avons entrepris s'en trouve nécessairement pour quelque temps interrompue, mais non abandonnée. Je me suis dès lors demandé quel texte des Écritures, en consonance avec la joie des jours présents, je pourrais, autant que Dieu daignera nous en faire la grâce, expliquer devant vous. Cette semaine, de manière à en achever le commentaire, en ces 7 ou 8 jours. L'idée m'est venue de choisir l'épître de Saint Jean. Ainsi, à défaut de son évangile que nous abandonnons provisoirement, le commentaire de son épître nous permettra de ne pas nous éloigner de lui. Mais la raison principale de mon choix est que dans cette épître, si douce à tous ceux dont est saint le palais du cœur, capable de goûter le pain de Dieu et si fort en honneur dans la Sainte Église de Dieu, que cette épître donc est avant tout un éloge de la charité. Jean y parle longuement et presque toujours de la charité. Qui a en soi de quoi l'entendre ne peut que se réjouir de l'entendre. Aussi ce commentaire sera-t-il pour lui comme une huile jetée sur la flamme. S'il y en a en lui quelques flammes à nourrir, elle se nourrit. Elle croit, elle dure. Pour certains autres, par contre, il sera ce qu'est la flamme pour un tas de brindilles. Si le feu n'y est pas, l'approche de nos paroles l'y allumera. Chez les uns est nourrie une flamme qui est déjà, chez les autres est allumée si elle n'est pas encore. En sorte que tous nous trouvions notre joie dans une même charité. Or, là où est la charité, est la paix, et là où est l'humilité, est la charité. Maintenant, écoutons-le et pour expliquer ses paroles, disons ce que Dieu nous suggérera afin que vous en ayez aussi l'intelligence. À ce signe, dit Jean, nous savons que nous le connaissons si nous gardons ses commandements. Quels commandements ? Qui dit qu'il le connaît et ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais tu demandes de nouveau quels commandements ? Qui garde sa parole, dit Jean ? C'est en lui que la dilection de Dieu est vraiment parfaite. Voyons si le commandement même n'est pas la dilection. Nous nous demandions en effet quels sont ces commandements. Et Jean nous dit « Qui garde sa parole, c'est en lui que la dilection de Dieu est vraiment parfaite. » Reporte-toi à l'Évangile. N'y trouves-tu pas ce commandement ? « Je vous donne, dit-il, un commandement nouveau, de vous aimer les uns les autres. » À ce signe, nous savons que nous sommes en lui, si en lui nous sommes parfaits. Il veut dire « parfait dans la dilection ». Quelle est la perfection de la dilection ? D'aimer même nos ennemis et de les aimer à cette fin qu'ils deviennent nos frères. Notre dilection, en effet, ne doit pas être charnelle. Souhaiter à quelqu'un la santé corporelle, c'est bien. Mais celle-là, ou celle-ci, fit-elle défaut que l'âme soit sauve ? Tu souhaites que ton ami vive, tu fais bien. Tu te réjouis de la mort de ton ennemi, tu fais mal. Mais peut-être cette vie que tu souhaites à ton ami, lui-même, est-elle nuisible ? Et cette mort dont tu te félicites que ton ennemi soit victime, lui est-elle utile ? On ne saurait dire si pour tel ou tel cette vie est un bien ou un mal, mais la vie auprès de Dieu est, sans conteste, un bien. Aime tes ennemis en souhaitant qu'ils deviennent tes frères. Aime tes ennemis en demandant qu'ils soient appelés à entrer en communion avec toi. C'est ainsi, en effet, qu'a aimé celui qui, suspendu à la croix, disait « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il n'a pas dit « Père, fais en sorte qu'ils vivent longtemps. Moi, ils me mettent à mort, mais eux qu'ils vivent. » Non, que dit-il ? « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il voulait les arracher à la mort éternelle par une prière toute de miséricorde et une puissance toute de force. Nombre d'entre eux crurent. Et il leur fut pardonné d'avoir versé le sang du Christ. D'abord, ils le versèrent en s'acharnant contre lui. Ensuite, ils le burent en croyant en lui. À ce signe, nous savons que nous sommes en lui, si en lui nous sommes parfaits. Eh bien, c'est à cette perfection de l'amour des ennemis que le Seigneur nous invite lorsqu'il dit « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Donc, qui prétend demeurer en lui, doit marcher lui aussi comme celui-là a marché. Comment cela, frère ? Que veut-il nous enseigner ? Qui prétend demeurer en lui, c'est-à-dire dans le Christ ? Celui qui prétend demeurer en lui doit marcher lui aussi comme celui-ci a marché. Serait-ce que par là, il nous invite à marcher sur la mer ? Il nous invite en tout cas à bien marcher dans la voie de la justice. En quelle voie ? Je viens de le dire, il était attaché à la croix et il marchait dans cette voie, la voie de la charité. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ainsi donc, si tu as appris à prier pour ton ennemi, tu marches dans la voie du Seigneur. Voilà, mes auditeurs, dans cette émission Lire et méditer, j'ai choisi de vous présenter un petit ouvrage, un livre vraiment très, très succinct, dirons-nous, puisqu'il ne fait que une centaine de pages, mais très riche, car il s'agit des commentaires de l'épître de Saint Jean, la première épître de Saint Jean, « Il n'y a qu'un amour » de Saint Augustin. Et nous poursuivons donc toujours dans ce début de livre où Saint Augustin, vous le savez, donc c'est aussi tout son talent, va vraiment décortiquer, tourner dans tous les sens cette parole de Saint Jean. Qui prétend être dans la lumière, c'est maintenant que Jean nous révèle toute sa pensée. Qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres. Ah, mes frères, combien de temps encore faudra-t-il vous dire « aimez vos ennemis, gardez-vous du moins, ce qui serait plus grave, gardez-vous de haïr vos frères. Si vous n'aimez que vos frères, vous ne seriez pas encore parfaits. Mais si vous haïssez vos frères, qu'êtes-vous ? Où en êtes-vous ? Que chacun regarde en son cœur. Qu'il ne garde pour rancune à son frère aucune rancune pour quelques paroles dures, que pour une chicane de la terre, il ne devienne pas terre. Quiconque est son frère, en effet, qu'il ne prétende pas marcher dans la lumière, que dis-je, qu'il ne prétende pas marcher dans le Christ. Quiconque prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres. Je ne sais pas quel païen devient chrétien. Faites bien attention. Il était dans les ténèbres quand il était païen. Le voilà maintenant devenu chrétien. Quand grâce soit rendue à Dieu et tous se réjouissent, on lui redit les paroles dans lesquelles l'apôtre exprime sa joie. Autrefois, vous fûtes ténèbres, mais à présent, vous êtes lumière dans le Seigneur. Il adorait les idoles, il adore Dieu, il adorait ce qu'il a fait, il adore celui qu'il a fait. Il est changé. Il adorait les idoles, il adore Dieu, il adorait ce qu'il a fait, il adore celui qu'il a fait. Il est changé. Grâce soit rendue à Dieu, tous les chrétiens se réjouissent. Pourquoi ? Parce qu'il est désormais un homme qui adore le Père, le Fils et le Saint-Esprit et qui maudit démons et idoles. Mais Jean s'inquiète encore à son sujet et, quand tous se réjouissent, a encore des doutes. Frère, entrant de plein cœur dans cette sollicitude maternelle, ce n'est pas sans raison que notre mère s'inquiète encore à notre sujet alors que les autres se réjouissent. Notre mère, je veux dire la charité, c'est elle qui habitait dans le cœur de Jean quand il disait ces paroles. Pourquoi, sinon, parce qu'il garde quelque crainte à notre sujet alors que déjà les autres se réjouissent ? Que craint-il ? Qui prétend être dans la lumière ? Qu'est-ce à dire ? Qui prétend être chrétien et qui est son frère est encore dans les ténèbres ? Il n'y a pas lieu d'expliquer, mais de se réjouir s'il n'en est pas ainsi, alors de se désoler s'il en est ainsi. Alors, l'amour supporte tout. Qui aime son frère demeure dans la lumière et en lui il n'y a aucun sujet de scandale. Je vous en conjure par le Christ. Dieu nous nourrit. Nous allons restaurer nos forces corporelles au nom du Christ. Nous les avons déjà quelque peu restaurées. Et nous aurons à les restaurer. Que notre âme est sa nourriture. Si je dis cela, ce n'est pas qu'il me reste à parler longtemps, car voilà que cette explication touche à sa fin. Mais c'est pour que la satiété ne risque pas de nous rendre moins attentifs à un enseignement d'une extrême importance. Qui aime son frère demeure dans la lumière et en lui il n'y a aucun sujet de scandale. Qui sont ceux qui souffrent ou font scandale? Ceux qui trouvent sujet de scandale dans le Christ ou dans l'Église? Ceux qui trouvent scandale dans le Christ sont comme brûlés par le soleil, ceux qui en trouvent dans l'Église comme par la lune. Or, le psaume nous dit « Pendant le jour, le soleil ne te brûlera point, ni la lune pendant la nuit. » C'est-à-dire, psaume 12, verset 6, « Si tu gardes la charité, tu ne trouveras sujet de scandale ni dans le Christ, ni dans l'Église. Tu n'abandonneras ni le Christ, ni l'Église. Car si quelqu'un abandonne l'Église, comment serait-il dans le Christ, lui qui n'est pas parmi les membres du Christ ? Comment serait-il dans le Christ, lui qui n'est pas dans le corps du Christ ? Ceux-là souffrent donc scandale et abandonnent le Christ ou l'Église. Comment comprendre qu'en disant « Pendant le jour, le soleil ne te brûlera point, ni la lune pendant la nuit ?» Le psalmiste, par cette brûlure même, veut désigner le scandale ? D'abord, remarque la comparaison elle-même. De même que celui que l'on cautérise dit « Je ne puis endurer, je ne puis supporter » et qu'il se retire, de même ceux qui ne supportent pas certaines choses dans l'Église et qui se retirent du nom du Christ ou de l'Église souffrent scandale. Voyez comment ils ont souffert scandale, comment brûlés par le soleil, ces hommes charnels auxquels le Christ annonçait qu'il leur donnerait sa chair lorsqu'il leur disait « Qui ne mange pas la chair du Fils de l'homme et ne boit pas son sang n'aura pas la vie en lui. » 70 hommes environ dirent « Cette parole est dure » et s'éloignèrent de lui. Il ne resta que les 12. Tous ceux-là furent brûlés par le soleil et ils s'éloignèrent, ne pouvant supporter la force de la parole. Restèrent donc les 12, mais pour qu'on n'aille pas s'imaginer que ce sont eux qui font une grâce au Christ en croyant en lui, et non lui qui leur en donne le bienfait, le Seigneur dit aux 12 qui étaient demeurés, « Et vous, allez-vous me quitter ? Afin que vous sachiez que c'est vous qui avez besoin de moi, et non moi de vous. Or, ceux que le soleil n'avait point brûlés répondirent par la bouche de Pierre, « Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle, à qui irions-nous ? » Et quels sont ceux que l'Église brûle comme la lune pendant la nuit ? Ceux qui font le schisme, écoutent cette parole que l'on trouve chez l'apôtre. « Qui est faible que je ne sois faible ? Qui est scandalisé que je ne brûle ? Et pourquoi n'y a-t-il pas de scandale pour celui qui aime son frère ? Parce que celui qui aime son frère supporte tout pour l'unité. Car c'est dans l'unité de la charité qu'est la délection fraternelle. Tu as été offensé par je ne sais qui, un homme mauvais ou que tu crois mauvais ou que tu te figures mauvais, et tu vas abandonner tant d'autres qui sont bons ? Que vaut cette dilection fraternelle telle qu'elle se manifeste chez les donatistes ? Et en s'en prenant aux chrétiens d'Afrique, ils se séparent du monde entier. N'y avait-il pas des saints dans le monde entier ? Ou alors, comment avez-vous pu les condamner sans les entendre ? Mais, oh, si vous aimiez vos frères, il n'y aurait eu pour vous aucun scandale. Écoute ce que dit le psaume 118. Grande est la paix pour ceux qui aiment votre loi, et pour eux il n'y a pas de scandale. Il dit que jouissent d'une grande paix ceux qui aiment la loi de Dieu, et que par là même il n'y a pas pour eux de scandale. Ceux-là donc qui souffrent scandale perdent la paix. Et quels sont ceux qui, selon le psalmiste, ne souffrent ni ne font scandale ? Ceux qui aiment la loi de Dieu, donc qui sont dans la charité. Mais, objectera-t-on, le psalmiste parle de ceux qui aiment la loi de Dieu, non de ceux qui aiment leurs frères. Écoute ce que dit alors le Seigneur. « Je vous donne un commandement nouveau, de vous aimer les uns les autres. » Qu'est une loi sinon un commandement ? Dès lors, comment échapper au scandale sinon nous supportant mutuellement ? Comme le dit Paul, supportez-vous les uns les autres dans la dilection, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Que telle soit bien la loi du Christ. Tu l'entends de la bouche de ce même apôtre lorsqu'il nous recommande l'observation de cette loi. Portez les fardeaux les uns des autres et ainsi vous accomplirez la loi du Christ. Voilà, mes auditeurs, je vous ai lu donc le traité numéro 1. Il y en a 9 sur ce commentaire magnifique de saint Augustin sur la première épître de saint Jean, avec bien sûr sa manière, la manière toujours de raisonner où saint Augustin pose les questions et surtout il donne les réponses. Il n'y a qu'un amour, c'est ainsi que s'intitule le petit livret qui résume en quelque sorte ce commentaire de saint Augustin sur la première épître de saint Jean. Alors je vous ai lu bien sûr, c'était sur l'amour fraternel, donc l'importance et le commandement de l'amour fraternel. Mais ensuite, ce sera bien sûr l'amour de Dieu, l'amour du monde, dans ces différents traités. L'assurance de la charité, que Dieu est amour, bien évidemment. L'amour de bienveillance, c'est très beau. Vraiment, bon, c'est saint Augustin, donc et qui va conclure aussi par ce « Dieu nous a aimés le premier », en reprenant bien sûr saint Jean. Alors je vous invite à vous procurer ce petit ouvrage de saint Augustin, donc sur le commentaire, c'est le commentaire en fait de la première épître de saint Jean, « Il n'y a qu'un amour ». Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, je vous souhaite une belle semaine avec de saintes lectures. Ubi caritas est vero. Oh, yeah.